Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien Julia, aujourd'hui c'est une journée particulière, nous sommes le vendredi 13. Et pour certains ce jour est associé à la superstition, il porterait malheur ou alors c'est l'inverse, hein, ce serait une journée associée à la chance. Eh bien on va partir de là et vous poser cette question, et vous, êtes-vous superstitieux? Les superstitions existent dans tous les pays du monde depuis des siècles, même si les croyances varient selon les cultures. Par exemple, si le 13 est un chiffre qui porterait malheur chez nous, savez-vous qu'au Japon, c'est le 4 ah. Et quid du trèfle à quatre feuilles, des passages sous les échelles ou encore des chats noirs? D'où viennent les superstitions les plus courantes et pourquoi sont-elles encore si présentes? Pour en parler, deux invités seront avec nous aujourd'hui. Marie-Charlotte Delmas, elle est historienne des croyances et superstitions populaires, ainsi que le psychologue Sébastien Garnero.
Ensuite, à 11h45, comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniqueurs. Il y aura d'abord Séverine Pierron, celle qui décrypte pour nous toutes les tendances 2.0. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer ce que sont les mèmes. Et ici, vous savez, ce sont ces contenus, ces images avec un texte court, humoristique, voire sarcastique. En tout cas, les jeunes en raffolent et Séverine nous expliquera tout sur les mèmes. Et enfin, on va terminer avec la chronique Évasion de Gavin Clément-Ruiz. Son bon plan du jour, ce sont des idées de randonnée, mais à faire avec des enfants, donc vraiment à la portée de tous. Allez, bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good, celle qui est là tous les jours pour vous rendre la vie plus facile ou en tout cas pour vous aider à mieux comprendre ce qui nous entoure. Et donc notre question du jour sera la suivante ce vendredi. Et vous, est-ce que vous êtes superstitieux ? Mélanie, vous êtes superstitieuse ou...
Non, pas trop. Je suis allée sur quelques trucs, hein, je dois avouer. J'ai cherché longtemps et je cherche encore désespérément un trèfle à quatre feuilles. Et je ne sais même pas pourquoi. Je sais pas, vous en avez trouvé, vous, déjà, Julia ?
Ah ouais, moi, je vois des trèfles à quatre feuilles partout.
C'est pas normal. Une vie remplie de chance, c'est génial. Mais est-ce que vous connaissez l'origine historique de ces croyances populaires ? On va détailler tout ça dans quelques instants avec nos invités. Mais pour commencer, on va écouter un homme super chanceux. Tous les jours, il part dans la rue avec son petit micro sous le bras. C'est Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour
Clément.
Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, je démarre cette émission en donnant la parole aux Français. Effectivement, alors déjà, superstitieux, ça veut dire quoi ? J'ai voulu vérifier si les enfants connaissaient la définition. Est-ce que vous la connaissez, les enfants ?
Non.
Super, ça veut dire quoi ?
Bah, cool.
Et sticieux ?
Ça ressemble à le nom d'un bonbon japonais.
Donc superstitieux, ça veut dire ?
Super bonbon japonais.
Il y a encore du boulot, donc superstitieux, c'est pas ça. Superstitieux, c'est quand justement on estime peut-être qu'il y a des croyances qui ont un impact sur ce qu'on fait ou pas. On détaillera ça dans un instant. Comme le vendredi 13, pour certains, ça porte bonheur, c'est sûr. Pour d'autres, ça porte malheur. Alors, j'aurais demandé à votre avis, est-ce que c'est vrai que le vendredi 13 porte peut-être malheur ?
Je suis pas du genre, je passe sous une échelle, ça me porte malheur, non. Pour moi, le vendredi 13, c'est comme tous les autres vendredis ou tous les autres 13.
Voilà, bon, donc on ne sait pas trop. Lui, hein, bon, un vendredi 13, c'est un vendredi comme un autre. Alors aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir un grand coup de chance. C'est ce qu'on associe au vendredi 13. Alors votre dernier coup de chance, justement, si on y réfléchit, ça remonte à quand ?
Alors je dirais, avant les vacances, en espagnol, j'avais pas eu le temps puisque j'ai eu des problèmes la veille. Donc il fallait que je fasse un texte pour le réciter à l'oral. Sauf que je l'avais pas fait et je suis pas passée ce jour-là, donc j'étais contente.
Coup de bol. Voilà.
Ouais. Donc c'est super feignante en fait. Ouais, c'est pas ça. Du tout la même chose. Dernier coup de chance aussi pour cette dame qui en a vraiment eu un.
Effectivement, d'avoir laissé les clés de ma voiture à l'extérieur et quelqu'un de très bien m'a laissé son numéro de téléphone pour me rendre mes clés de voiture. Ça, c'est un coup de chance. Ah
oui. Elle est belle, cette histoire.
Ils sont
histoire.
Tombés amoureux.
Et puis, je suis tombé. Alors, moi, je me promène vraiment dans la rue comme ça. Je pose des questions à droite, à gauche. Et parfois, vous connaissez cette expression, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a une personne qui a eu un grand coup de bol et l'autre, justement, un peu moins. C'est un couple que j'ai trouvé vraiment dans la rue.
Il y a 50 euros dans mon sac, je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est mon coup de chance. C'est quelqu'un qui l'avait dans mon sac, mais je ne sais pas c'est qui.
Moi, j'ai perdu 50 euros récemment.
Ah ouais, tiens.
Voilà, c'était son chéri à côté. Donc, peut-être que si vous avez des chances, il y a quelqu'un qui. Si vous trouvez 50 euros, c'est quelqu'un les a perdus forcément.
C'est à moi, Clément.
Peut-être. C'est vendredi 13. En plus, c'est presque votre date anniversaire, vendredi 13.
C'est quoi, vous, Mélanie ?
Un 15, mais rien à voir.
Alors que moi, je suis née un 13 juillet, mais ce n'était pas un vendredi. Bon, bref. Merci quand même, Clément Lanoux. On va maintenant se tourner vers nos spécialistes sur ce sujet. Je commence par vous, Marie-Charlotte Delmas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne des croyances et superstitions populaires. Et l'auteur du livre Dictionnaire de la France mystérieuse, c'est aux éditions Omnibus. Avec nous également Sébastien Garnero, bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute. On va commencer avec vous, Marie-Charlotte, pour bien comprendre de quoi on va parler. Est-ce que vous pouvez nous définir précisément ce qu'est une superstition ?
C'est pas si facile que ça.
J'imagine.
C'est pas si facile que ça parce que le domaine de la superstition a varié d'une époque à l'autre. Ce qu'on mettait dedans n'était plus le même au XVIIe siècle qu'au XIXe, etc. Mais je vais quand même essayer de vous donner, évidemment, de façon sommaire, une petite explication définitoire sur la superstition. Donc, je dirais que la superstition fonctionne sur l'idée consciente ou inconsciente que certains objets, certains éléments naturels, certains gestes, certains rites possèdent une sorte de pouvoir magique qui est capable de protéger, de porter bonheur ou à l'inverse, d'attirer le malheur. Mais aussi de permettre une forme de divination par l'interprétation de certains signes. Voilà.
D'accord. Donc, quand par exemple, je me dis si le feu passe au vert avant que je m'arrête, j'aurai une bonne nouvelle. C'est une superstition, ça ?
C'est un signe.
Je ne sais pas si c'est pas de la pensée magique, peut-être. Ouais. Justement, on va aller voir du côté psychologique, Sébastien. Dans votre patientèle, vous avez beaucoup de gens qui sont de réels superstitieux. Moi, j'ai l'impression qu'on peut confondre ça un peu, comme ce que disait Julia, avec les TOC, peut-être, ou non ?
Oui, alors moi, j'ai à peu près un tiers de personnes qui sont superstitieuses, mais ça fait partie des pensées superstitieuses communes, un peu atypiques parfois. Hein. On va mettre un petit gris-gris, une amulette, on va avoir un vêtement porte-bonheur.
Moi, je me touche quatre fois la tête quand je monte dans l'avion, parce qu'on est bon. Je sais pas, c'est un TOC, je crois.
Alors là, c'est plutôt un TOC, effectivement.
Pour chaque personne de ma famille.
Voilà.
Oui, c'est chelou.
Non, je me cogne quatre fois la tête, mais pour l'autre raison.
Mais comment vous faites justement la différence entre un patient toqué et un patient superstitieux ?
Alors la différence, déjà dans les troubles obsessionnels compulsifs, il y a des obsessions, alors qui peuvent correspondre à la crainte de la saleté, d'avoir un malheur, des difficultés dans la vie ou autre, caractérisé par des pensées intrusives qui vont être sans cesse présentes et envahir la sphère de la personne. Voilà, obsédante. Et aussi des compulsions avec des rites conjuratoires. Donc, par exemple, taper quatre fois la tête.
Non, juste toucher, c'est tout.
Se laver deux fois les mains. Sinon, on va attraper une maladie ou autre, ou des choses comme
et
ça.
Et le superstitieux, alors, qu'est-ce qu'il fera, lui ?
Alors, le superstitieux, il va avoir une certaine adhésion à sa croyance, mais il va quelque part se dire qu'il y a un lien avec son histoire, avec sa culture et autres. Alors que souvent, le toqué, entre guillemets, il sait qu'il y a quelque chose d'absurde, d'incohérent. Et ensuite, il y a une intensité beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse qui est au centre du toc.
Le superstitieux, il fait ça juste pour se raconter une histoire. C'est son histoire.
Pour se raconter
magique.
Une histoire et puis, je dirais, pour déjouer les mauvais sorts.
Marie-Charlotte, est-ce qu'on sait si les Français sont plus superstitieux que d'autres populations ? Est-ce que vous diriez d'ailleurs que ça se perd aujourd'hui, les superstitions, en 2022 ?
Alors moi, je ne connais pas le hit parade des pays superstitieux, j'en sais rien du tout. Que ça se perde, oui, pour les superstitions collectives et codées. Le trèfle à quatre feuilles, voilà, des superstitions qui viennent de loin. Mais restent des superstitions individuelles. Et ces superstitions individuelles, elles sont liées à des défis. En fait, c'est quand on est face à l'inconnu que on va être plus sensible à certains signes, à la superstition.
Si justement on met les pieds dans le plat tout de suite, on est vendredi 13, d'où vient la crainte qu'ont certains vis-à-vis de cette date dans l'histoire ? Pourquoi le vendredi 13 ? Pourquoi pas le samedi 14 ?
Alors, d'abord, c'est une superstition essentiellement, mais exclusivement liée au christianisme. Le vendredi, date de la mort du Christ. Le 13, la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ avec les 12 apôtres et le Christ. Les deux superstitions existaient, c'est-à-dire que le vendredi, c'était un jour tabou. On a des manuscrits au Moyen-Âge qui s'appellent les recommandations du vendredi, où déjà on raconte ce qu'il ne faut pas faire le vendredi, et puis que toutes les catastrophes bibliques se sont passées le vendredi.
Ah, vous savez déjà, pas, mais alors, le vendredi,
le déluge,
c'était un
vendredi. Adam et Ève chassés du paradis, c'était un vendredi, etc.
Et pourquoi le 13 ?
Et alors le 13, ben, la scène.
Ah, les 13
le Christ et les 12 apôtres. Donc du coup, la superstition initiale, c'était ne jamais être 13 à table.
Et celle-là, dans de nombreuses familles, elle est encore là.
Et puis elle a évolué. Et après, c'est le nombre 13, c'est-à-dire plus de wagons 13 dans les trains, plus d'étages 13 dans les hôtels.
Pas 13 enfants.
Voilà. C'est ça. Tout ce qui était 13 posait problème. Et l'amalgame sera bien plus tardif.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Ce matin, on vous pose cette question et vous, êtes-vous superstitieux? Pour en parler, ils sont toujours à nos côtés. Marie-Charlotte Delmas, historienne des croyances et superstitions populaires et l'auteur du livre Dictionnaire de la France mystérieuse. C'est aux éditions Omnibus. Et puis avec nous également, Sébastien Garnero, docteur en psychologie et psychothérapeute. Alors Marie-Charlotte, dans l'histoire, est-ce qu'on sait quand elles sont apparues les premières superstitions? Depuis quand finalement l'être humain y est confronté?
Bon, on n'en sait rien, bien sûr, hein, vous en doutez. Mais moi, j'ai bien envie de dire depuis toujours, en fait. Parce que les superstitions, elles permettaient aux humains d'avoir le sentiment de maîtriser un petit peu leur destin, d'avoir une prise à un moment donné sur quelque chose. On s'imagine bien que les hommes de la préhistoire s'étonnaient à peu près de tout. Et je pense que les pauvres gens, je dis pauvres gens parce que ça n'a pas dû être une mince affaire, qui ont planté les 6000 menhirs de Carnac, l'ont pas fait comme ça, juste pour faire joli dans le paysage, et que, quelque part, ils leur donnaient un certain pouvoir.
Dites-moi, Marie-Charlotte, on sait au moins si ces gens étaient plus ou moins instruits, ou plus ou moins religieux, ces gens superstitieux?
Alors, je ne pense pas que ce soit une question d'instruction ou de religion. La distinction se faisait essentiellement entre travailleurs et oisifs, ville et campagne. Comme la France était rurale, pour la plus grande partie, il est normal qu'on retrouve l'essentiel des superstitions relevées au XIXe siècle dans les campagnes. Superstitions de paysans. Alors, certes, ils étaient moins instruits, mais ils avaient aussi beaucoup à perdre, parce qu'il suffisait d'une mauvaise récolte, enfin, d'une inverse de grêle, par exemple, d'une mauvaise récolte pour mourir de faim. Quant à la religion, je ne pense pas non plus que le fait d'être religieux...
Les rendre plus superstitieux
Non, pas du tout, parce que la superstition a récupéré beaucoup de... La religion, pardon, a récupéré beaucoup de superstitions. On ne va plus allumer une chandelle devant une pierre sacrée, mais on va aller l'allumer devant un saint, par exemple.
Bien sûr. Justement, Sébastien, en 2022, est-ce qu'on sait s'il y a un profil particulier chez les personnes très superstitieuses? Est-ce que ça concerne, je ne sais pas, davantage certaines catégories socioprofessionnelles ou des profils psychologiques particuliers?
Alors déjà, il y a un profil qui est lié à l'émotivité. En général, c'est des personnes qui présentent une forte émotivité, avec une anxiété aussi au premier plan. On peut le voir chez des personnes qui présentent effectivement aussi parfois des phobies aussi, des phobies alors simples ou sociales. On va le retrouver aussi dans certaines formes de TOC aussi, mais avec la différence qu'on a pu noter tout à l'heure. Et puis, en fonction des circonstances aussi, c'est-à-dire des caractéristiques liées à des métiers, des métiers qui sont à risque en général, qui font face à l'incertitude. Alors, on a le pilote d'avion, on peut avoir en ce moment les problématiques liées à la guerre aussi, les sportifs de haut niveau. Par exemple, moi, j'ai des sportifs de haut niveau, parfois, qui viennent consulter et qui ont des superstitions, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment pour affronter la performance, pour gérer le stress face à l'incertitude, il y a une tentative de contrôle, de maîtrise de son environnement et donc recours à toutes ces petites superstitions, mais qui restent non pathologiques dans ce cadre-là.
Donc, même si c'est vain, ça n'est pas grave, d'un point de vue psychologique?
C'est pas grave, ça fait un pont, on va dire, entre l'irrationnel et le contrôle des éléments de la réalité. Alors parfois avec des corrélations illusoires, évidemment, c'est le principe de ce type de mécanisme. Mais ça permet, on va dire, de se rassurer. C'est pour ça qu'on le voit dans certains domaines. On le voit chez les acteurs aussi, chez les comédiens, les artistes, dans tout un tas de professions assez exposées au stress.
Alors justement, on a Laura qui est en ligne avec nous, une grande superstitieuse. Elle va nous l'expliquer. Bonjour Laura.
Bonjour Mélanie.
Alors justement, vous faites partie de ces grandes superstitieuses. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien qui soit justement superstitieux? Je crois que vous vous touchez la tête, du bois. Pour éviter quoi concrètement et vous faites quoi précisément?
Et en fait, dans ma famille, on a cette expression « toucher de la viande, du singe et du bois ». Dès qu'on évoque un malheur ou quelque chose qui pourrait mal se passer, tout de suite, on cherche du bois à toucher et on se touche la tête en même temps. Et si on a le malheur de ne pas avoir de bois sous la main, on touche en général la tête d'une personne qui n'est pas très loin. Donc ta pauvre, elle ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais nous, en fait, c'est pour éviter que le malheur s'abatte sur nous.
C'est ça, mais vous craignez quoi, par exemple, la dernière fois que vous avez touché votre tête ou de la viande de singe, c'est ça que vous avez dit. C'était ça. Pour éviter quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple précis.
Oh, un exemple précis. À chaque fois qu'on évoque, je sais pas, quelqu'un est décédé, une personne très connue, on dit oh ben non, il faudrait pas que ça nous arrive à nos grands-parents, puisqu'ils ont à peu près le même âge. Et là, tout de suite, hop, on se touche la tête, on touche du bois, ce genre de choses.
D'accord. Et vous avez l'impression que si vous ne le faisiez pas, vous y croyez vraiment au fond de vous ? C'est presque plus par habitude ?
C'est un peu par habitude. En même temps, on se dit si je le fais pas, cette fois-ci, ça va arriver.
Ouais, je comprends. Aujourd'hui, on est vendredi 13. On parle aussi souvent des chats noirs. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces deux superstitions-là ?
Alors nous, on est plutôt du genre à penser que ça porte bonheur. Après, on a des vieilles croyances un peu plus païennes. Donc on sait que vendredi 13, les chats noirs, c'était un peu lié aux sorcières, etc. Et nous, on sait que les sorcières, c'était juste des femmes très indépendantes. Et nous, on essaye plutôt de voir le jour du vendredi 13 comme un jour de chance. On reste très à l'écoute de tout ce qui peut se passer de bien dans cette journée. Et pareil, les chats noirs, on trouve ça adorable. On n'a pas vraiment peur d'eux.
D'accord. Est-ce que vous avez un chiffre fétiche ou un petit porte-bonheur à vous ?
Alors, plutôt des chiffres fétiches, typiquement le 3, le 7 et le 16. Alors, 3 et 7, parce que c'est des chiffres assez importants. Je veux dire, le 3, on peut citer la Trinité chez les chrétiens. Et c'est des chiffres que j'aime beaucoup. Et le 16, c'est tout simplement le jour de mon anniversaire.
Et voilà. Vous les utilisez pour quoi, par exemple, ces chiffres porte-bonheur ?
Le loto, typiquement, Romignon, tout ça.
Et alors, vous avez gagné le gros lot ou pas, déjà ?
Non, malheureusement, non. Et pourtant, j'ai des jeux souvent.
Bon, et aujourd'hui, c'est vendredi 13. Qu'est-ce que vous allez faire de spécial ? Puisque c'est une super journée de chance, alors, pour vous.
Alors, je vais préparer l'ouverture d'une entreprise. Donc, on va espérer que je vais avoir plutôt de la chance de ce côté-ci. Niveau pro, je pense que c'est une bonne journée.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Laura. On vous souhaite le plus de chance possible pour tous vos projets. Merci.
Je vous en prie.
Marie-Charlotte, le vendredi 13, donc ça peut être jour de malchance, on en a parlé pour certains tout à l'heure, mais quand c'est pour certains au contraire un grand jour de chance, d'où ça vient cette histoire-là ? Pourquoi ça porterait bonheur le vendredi 13 et que tout le monde veut jouer au loto ?
Quand on a associé, en fait on a associé le vendredi et le 13, et à partir de là on a fait un jour particulier, ce jour particulier les loteries s'en sont emparées. Et je pense que c'est avec le développement de la loterie que dans le milieu du 19e siècle, on ne la trouve pas avant cette superstition, on se met à penser que ce jour peut apporter aussi...
La baraka.
La baraka, voilà.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Il devait être complètement toqué, notre Stevie Wonder. Hein.
Comment ça s'appelle ce titre déjà, Julia ? Dites-le en anglais.
Superstition.
Ouais, pas mal.
Avec un super accent. Et oui, vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et vous êtes peut-être vous aussi superstitieux. Savez-vous d'ailleurs à quand remontent les croyances populaires qui ont toujours pas mal d'adeptes ? Pour y répondre et surtout nous éclairer sur ce sujet, ils sont toujours avec nous ce matin en studio. Marie-Charlotte Delmas, historienne des croyances et superstitions populaires, ainsi que Sébastien Garnereau, docteur en psychologie et psychothérapeute. Alors Marie-Charlotte, on a parlé tout à l'heure de certaines superstitions, on n'a pas encore, notamment du vendredi 13, comme aujourd'hui, mais on n'a pas parlé du chat noir. C'est quoi cette histoire avec le chat noir ?
Ça vient d'où ?
Ouais.
Ça vient de loin aussi, parce qu'en fait, dès le Moyen-Âge, on se méfie du chat. Parce que le chat est un animal moins docile que le chien, il est indépendant, donc il est plus inquiétant. Et il y a toute une série de superstitions qui concernent le chat, quelle que soit sa couleur d'ailleurs. En revanche, à la Renaissance, durant l'époque de la grande chasse aux sorciers et aux sorcières, les juges vont faire avouer à ces pauvres gens, sous la torture bien entendu, qu'ils se transforment en loup-garou, mais aussi en chat-garou. Et donc, le chat noir, couleur des ténèbres, va faire les frais de cette croyance. Et du coup, le croiser, c'est possiblement croiser un sorcier, voire même le diable, puisque ce dernier aurait aussi la possibilité de s'incarner en chat.
Bon, ce sont des diables qui ronronnent aussi bien que les autres et qui sont très mignons, on les salue tous les chats noirs. Sébastien, je reviens vers vous. Avec l'actualité qui est quand même assez anxiogène en ce moment, et déjà depuis quelques mois, on va dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une recrudescence de patients qui sont comme ça un peu accros et très attachés aux superstitions ?
Alors oui, on a une recrudescence. Alors, il faut savoir que l'environnement anxiogène, qui est de plus en plus inquiétant, on a eu le Covid par exemple, et on l'a même vu d'ailleurs dans l'actualité. Par exemple, dans certains centres de vaccination, j'avais lu ça en Allemagne, par exemple, il y avait 12 guichets, mais pas le 13e, et on passe au 14e, par exemple, alors qu'on vaccinait tout le temps. Bon, sans compter ce qui se passe actuellement en Ukraine. Hein. Donc, il y a un contexte très favorisant par rapport à l'émergence de superstitions pour apaiser l'angoisse. Hein, pour colmater un petit peu tout ça, on sait que plus il y a d'inquiétude, et en général, plus il y a le recours à des superstitions, et à, d'ailleurs on le voit, alors même dans notre époque, hein, les jeunes par exemple, reviennent un petit peu au tarot, hein, à tarot divinatoire, à tout un tas de jeux de hasard aussi, avec des rituels un peu magiques, hein, pour conjurer un peu tout ça.
Hein. Marie-Charlotte, on n'a pas encore expliqué quelque chose qui vous passionne, intéresse beaucoup Mélanie, ce sont ces marchés dans le pied gauche sur des excréments, sur des crottes de chien.
Je crois que je l'ai fait une fois exprès quand j'étais petite.
Mais pourquoi le pied gauche, pas le pied droit?
Pas forcément des crottes de chien en plus. Hein.
Ah oui, c'est des crottes tout court.
Ah bah oui, des
crottes tout court. Au départ, la superstition, c'était des excréments, quoi, tout simplement.
Des excréments tout court. Et alors, c'est une croyance extrêmement étrange, parce que le côté gauche, le côté senestre, qui donnera le mot sinistre, est toujours de mauvais augure depuis l'Antiquité. Voilà,
c'est pour ça qu'on n'aimait pas les gauchers à l'école aussi.
On n'aimait pas les gauchers. Oui. Quand on dit que se lever du mauvais pied,
c'est le pied gauche,
va entraîner une mauvaise journée, les Romains y croyaient déjà.
Ah oui.
Du coup, je ne comprends pas pourquoi ce pied gauche, dans des excréments, porte bonheur. Je n'ai jamais réussi à trouver une explication.
On ne sait pas qui a inventé ça.
Bon, arrêtez de le faire, Mélanie.
Voilà. Il y a différentes variantes. Hein. Des fois, effectivement, c'est des crottes de chien dans certaines régions. Dans d'autres, effectivement, il faut se lever à jeun pour avoir une bonne journée.
Elle a ses variantes, celle-ci, hein, selon les
toutes,
régions.
Toutes les superstitions ont leurs variantes.
Mais Sébastien, le fait de croire en certaines choses, est-ce que ça ne peut pas provoquer au bout d'un moment des blocages psychologiques dans le quotidien? À partir de quand on doit considérer que ces superstitions deviennent un problème?
Alors, à partir du moment où elles envahissent la pensée, elles envahissent le quotidien, elles deviennent intrusives, dérangeantes, et on a en gros un peu plus d'une heure à deux heures qui est consacrée à ces obsessions. Parfois, ça peut aller même jusqu'à une demi-journée, et par rapport à ces rituels conjuratoires. Donc, à partir de ce moment où il y a une intensité, une fréquence, une gravité, là, ça va poser un problème. Et ça va poser un problème de phobie sociale. On a des personnes qui ne vont plus sortir de chez elles, alors notamment le vendredi 13, hein, avec les volets fermés. D'autres qui ne vont plus oser toucher, je dirais, un système électrique ou autre chose. On a tout un tas de superstitions qui vont devenir très handicapantes quand on a...
Quand c'est envahissant, ça on consulte, hein, c'est mieux quand même. Hein.
Exactement, il faut toujours consulter quand on sent qu'il y a un envahissement très important et puis qu'il y a aussi des manifestations anxieuses. Hein. C'est vraiment les symptômes des troubles du sommeil, des troubles psychosomatiques et autres.
Hein. Marie-Charlotte, il y a une des superstitions dont vous parlez dans votre livre qui a vraiment une longévité incroyable, c'est celle du trèfle à quatre feuilles. Elle nous vient d'où, celle-ci?
Alors, bon... Elle nous vient d'où? On n'en sait rien, comme d'habitude. Hein. Mon propos ne varie pas. Par contre, oui, c'est une superstition qui allie longévité et popularité. Le trèfle à quatre feuilles est considéré comme un porte-bonheur qui amène ou de la chance ou de l'argent selon les régions. Alors, il faut dire qu'il allie trois singularités qui vont lui conférer une fonction magique. Il est une anomalie de son espèce. Qui est à trois feuilles, trifolium, ça veut dire trois feuilles. Il est rare, donc précieux. Et enfin et surtout, et c'est pas la moindre de ses qualités, il a la forme d'une croix.
Ah oui. Et donc c'est encore lié à la religion. Alors Sébastien, pour ceux qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout superstitieux, comment on peut expliquer que ces théories ne les atteignent pas? Ça veut dire quoi? Que quand on n'est pas superstitieux, on est plus fort psychologiquement? On n'a pas besoin de se rassurer au petit gris-gris dont vous nous parlez?
Alors non, pas forcément. C'est souvent qu'on a un système de pensée assez rigide, qui est basé uniquement sur le discours de la science, par exemple, très extrêmement rationnel, et on ne s'autorise pas justement avec ces idées qui pourraient être superstitieuses ou autres, à pouvoir aller dans cet irrationnel-là. Donc on le retrouve fréquemment. Mais ceci dit, certaines personnes qui sont aussi scientifiques ont aussi des superstitions. Hein, c'est comme cette fameuse boutade de dire « je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur ». C'est un peu ça.
Marie-Charlotte, on va conclure avec vous. On a vu que donc, les superstitions existent probablement depuis la nuit des temps. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait surgir là de nouvelles superstitions en 2022? Ça, Bon, on va pas, vous n'êtes pas devin, mais ça pourrait être de quel ordre, selon
le
vous ?
Le chien blanc.
Alors, 2022, je ne sais pas, mais enfin, il y a une superstition qui est assez récente et qui est celle qui consiste à se regarder dans les yeux quand on trinque.
Ah oui, ah oui.
Superstition totalement absurde.
Autrement,
parce
c'est 7 ans de mauvais sexe.
Jamais on aurait fait ça dans les siècles passés, parce que regarder quelqu'un dans les yeux, eh bien, ça ouvre quand, la ça possibilité d'attraper le mauvais œil.
Ça date de quand
Pas très longtemps, quelques ouais années. Hein.
Moi, j'avais entendu le mauvais sexe, pas vous, Mélanie ?
Non, je ne sais même pas pourquoi il faut regarder dans les yeux, mais...
On ne regardait jamais quelqu'un dans les yeux, parce qu'on avait peur d'attraper le mauvais œil, d'être face à un sorcier, etc. Donc, je ne sais pas.
Bon. Voilà. Eh bien, merci hein, beaucoup. J'espère que ce vendredi 13 va bien se passer pour nous tous. Merci à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin. Et pour en savoir plus encore sur les mystères et les origines des superstitions et autres croyants, je rappelle votre livre, hein, Marie-Charlotte, Dictionnaire de la France mystérieuse, et c'est aux éditions Omnibus.
Oui, merci à vous deux. On va maintenant passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous, dans laquelle Séverine Pierron va nous expliquer ce que sont les mèmes, ces images avec un texte court humoristique dont les jeunes raffolent et qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et enfin, on terminera avec la chronique évasion de Gavins, Clément et Ruiz. Son bon plan du jour, ce sont des idées de randonnée, mais à faire avec des enfants, donc vraiment à la portée de tous, même de Julia. Oh. Je pense qu'on va passer un très bon moment, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi. Alors à présent, on va lancer comme tous les jours notre partie tendance. Et donc dans ce studio, il y a déjà Gavins, Clément et Ruiz. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour. Vous nous amenez où aujourd'hui?
Partout en France, aux quatre coins de la France.
On va crapahuter,
mais avec nos pieds, c'est ça?
Avec nos pieds et nos enfants.
Ah, ouais. Sympa. Il n'y a pas d'avion aujourd'hui, Julia, désolée. Tout ce qu'elle aime, les pieds et les enfants. Bon, vous restez bien avec nous, Gavins, car pour le moment, c'est Séverine Pierron qu'on va écouter. Bonjour Séverine.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des mèmes, ces images virales hyper codées qui envahissent le fil de nos réseaux sociaux et auxquelles franchement on ne comprend rien du tout.
Oui, alors vous avez déjà certainement croisé un mème sans vraiment le savoir, car sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok, ils se multiplient de façon virale en détournant avec humour l'actualité. On en trouve des dizaines de milliers, même peut-être des millions, je ne sais pas, sur Internet. Ce sont les mèmes et ça s'écrit M-E, accent grave, M-E-S. Voilà.
C'est important de le dire, hein, parce que ça ne s'écrit pas avec l'accent circonflexe.
Ouais, voilà. C'est important de le dire. Alors, les jeunes générations en sont dingues, c'est une sorte de sous-culture LOL, un LOL humour hyper référencé.
Oui, alors justement, à quoi reconnaît-on un mème?
Alors, comme je le disais, un mème, c'est une image détournée qui est augmentée, qui est reproduite à l'envi par les internautes. C'est une forme de parodie, c'est souvent drôle, mais le mème peut aussi se faire politique. Alors, comment naît un mème? Au départ, il faut une image tirée de la pop culture, du cinéma, les séries ou aussi l'actualité politique. Ensuite, on vient y coller son commentaire, sa blague, sa référence, puis on ajoute des hashtags pour augmenter la viralité, par exemple. Et en fait, pour être plus précis, le nom mème, qui se prononce en VO, attention, mime.
Mime.
Ça vient du grec mimesis, qui a donné en français mimétique. En fait, ça veut dire qui se reproduit. Donc, la fonction principale du mème, évidemment, c'est de se reproduire.
Bah oui, donc, c'est d'être viral. Vous connaissez ça, vous, Gavins, les mèmes?
Je connaissais le nom. Je ne suis pas rentré dans les détails comme Séverine, mais heureusement qu'elle est là.
Voilà. Les mèmes, c'est la même image, si on comprend bien, qui est reproduite plusieurs fois avec des gens qui font des têtes pas possibles.
Alors,
c'est ça
peut être. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, Olivier Véran qui a enlevé sa chemise pour se faire vacciner.
Ah oui, on se rappelle.
Bon,
ah oui.
Voilà. C'était une image d'actualité. Cette image, en fait, a été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux.
Tout le monde a enlevé sa chemise.
Voilà, alors elle a été parodiée. Alors, soit parfois, c'était directement l'image d'Olivier Véran, donc l'image d'actualité, avec des commentaires écrits en typo dessus. Soit, en effet, des parodies où d'autres gens enlevaient leur chemise. Soit, par exemple, peut-être d'autres images qui seraient proches. Et l'idée, c'est en fait d'apporter son petit commentaire, d'être ironique, d'être parodique, d'être drôle. Il y en a eu d'autres, hein, des images tirées de l'actualité, comme par exemple Poutine, rappelez-vous, c'est assez récent, assis à sa gigantesque table de réunion.
Oui.
Voilà, donc ça c'est une image assez frappante. Donc généralement, les images qui deviennent des mèmes sont des images
fortes.
Soit voilà, des images fortes, soit des images... ça peut être aussi des images assez banales, mais qui permettent d'appliquer une sorte de storytelling personnel, c'est-à-dire une image banale, on va la transformer en racontant une histoire.
Heureusement que vous êtes là, parce que c'est pas simple. Hein,
non, c'est pas simple. Alors, il y a eu aussi, par exemple, Macron avec son sweatshirt. En fait, toutes ces images ont été source d'inspiration pour les créateurs anonymes, souvent de mèmes.
Mais il y a Macron aussi avec les poils aussi, non?
Il y avait
tout, il y a les poils, il y a le sweatshirt, enfin toutes les photos, alors
Et oui. Parfois, il y a juste des enfants qui font des têtes pas possibles, qui recrachent ou des trucs comme ça, ils les mettent en boucle.
Voilà, donc ça peut être des images banales, par exemple, ça, c'est pas très intéressant en soi. Et donc, l'idée, c'est de mettre des petits commentaires.
Julie, elle a pris l'exemple pas intéressant. Non, mais quand je présentais le meilleur pâtissier, par exemple, je recevais des mèmes et des gens qui se faisaient, genre, qui mettaient les doigts dans la bouche, genre, c'est dégueu ce gâteau, vous voyez.
Ah oui.
Et ça, c'est un mème ou pas?
Alors, un mème, pour que ce soit un mème, il faut quand même que ce soit viral. C'est-à-dire
la gifle de Will Smith, ça, on l'a vu partout.
Voilà, parce que ça c'est un très bon exemple. Voilà, on reprend l'image d'actualité. Ouais. Donc, ça peut être soit ça peut être un gif, donc c'est une image animée, et ça peut être aussi une image statique. Donc, en effet, Will Smith, vous avez vu cette image où l'autre se prend la baffe et on voit carrément presque le visage déformé. Voilà. Et donc, ensuite, cette image a été reproduite mais des millions de fois et chaque internaute peut y appliquer son commentaire. Donc, il y a des mèmes aussi très anciens, comme je ne sais pas si vous connaissez ce mème qui s'appelle Disaster Girl, qui est en fait une petite fille qui ricane au premier plan à l'arrière, une maison en feu.
Ah oui, c'est affreux, ça.
Bon, voilà. Bon, je vous en passe parce qu'il y en a des tas. Alors, l'idée, c'est que c'est hyper codé. Et en fait, il faut, si vous voulez, multiplier les références pour créer une connivence avec l'internaute. Voilà. L'esthétique, parfois, est assez moche ou basique. Hein, mais ça, c'est fait exprès. Sur les réseaux, figurez-vous qu'il y a même des gens qui en ont fait leur métier.
Ah oui, j'allais dire, parce que moi, je ne sais pas faire, de toute façon.
Moi, je voudrais fabriquer un mème.
Mèmeur professionnel.
Voilà, il y a des gens qui s'appellent les mèmeurs.
C'est vrai?
Ce sont des mèmeurs, ce sont des fabricants de mèmes.
Et nous, on serait des mèmeuses alors avec Julien.
C'est des mèmeurs. Les mèmeuses aussi. Alors, j'aimerais en citer deux que j'adore sur Instagram. Il y a un mec qui s'appelle Yugnat999 qui s'appelle en réalité Tanguy. Et lui, il fait à peu près 10 mèmes par jour. Ah. Et il y en a un autre qui est assez cool, ce compte, c'est Couturefu. C'est un compte qui s'intéresse à la mode, qui crée des mèmes autour de la mode et c'est vraiment hilarant.
Mais c'est pas un peu couillon tout ça?
Alors, écoutez, non, je peux pas vous laisser dire ça parce que le mème, c'est une nouvelle forme de narrativité créative. Avec sa propre grammaire visuelle, Julia.
Oh là là.
C'est un langage inventé collectivement, si vous voulez. Et figurez-vous même qu'un sémiologue et critique des médias, François Jost, il travaille pour le CNRS et il s'est récemment intéressé dans un livre éclairant que je vous conseille, qui vient de sortir, qui s'appelle « Est-ce que tu m'aimes ?»
Oh, génial.
Écrit comme un mème. Voilà, donc je vous laisse apprécier le jeu de mots. Donc, franchement, ce livre est très intéressant. Il y remonte le fil des mèmes et il décrypte leur fonctionnement. Et pour lui, les mèmes, ce sont la pure expression de la culture Internet. C'est une sorte de sous-culture qui va être absorbée par la culture dominante. Elle est en passe même d'être légitimée, si vous voulez, parce que les mèmes, ils sont partout, même dans la pub, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est passionnant. Alors, j'ai envie de faire un jeu de mots. Qui m'aime me suit.
Oh oh
hey, je sais, c'est nul.
Même pas mal.
Hey, non, mais il y en a des millions. Il y en a des millions.
On va arrêter. Alors, merci Séverine, en tout cas, pour ce décryptage qui était plus que nécessaire, vu notre niveau de connaissance sur le sujet avec ça. Mélanie et Gavins. Bon, maintenant, on va passer à la chronique voyage-évasion avec vous, cher Gavins Clément de Terruise.
Et à pied avec des enfants, attention.
Oui. Mais pourquoi pas? Vous êtes notre chroniqueur voyage, vous travaillez au Guide du Routard et vous vous êtes intéressé à un phénomène qui peut toucher pas mal de familles, des parents, même des grands-parents. Ce sont les randonnées avec les enfants.
Et ouais, je trouvais qu'on n'en parlait pas assez. Souvent, dans les médias, on voit le GR20, c'est les chemins de randonnée. Oui. On voit le chemin de Stevenson dans les Cévennes avec l'âne. Vous vous souvenez d'Antoinette dans les Cévennes qui fait le fameux... Bref, on voit ça, c'est surtout pour les adultes. Et je me suis dit, mais pourquoi pas avec des enfants? Je suis sûr qu'il y a des itinéraires un peu plus réservés à nos chers bambins.
Ben oui, parce qu'on ne peut pas faire 20 km, faire 20 km, moi, avec ma fille de 4 ans, je ne vois pas trop. Donc, il faut bien choisir, pas se tromper. Ouais. Qu'est-ce que vous nous conseillez de ne pas oublier déjà avant de partir en randonnée avec des petits?
Alors, dans mon sac, l'enfant déjà, il ne faut pas l'oublier. Non, pardon, je rigole. Il faut emmener ses chaussures de randonnée.
Une gourde, bien sûr.
Le coupe-vent, de la crème solaire, faut faire gaffe, de l'eau alors dans la gourde, lunettes de soleil, sac à dos, veste polaire.
Ce qui peut faire frisquer là-haut.
Il peut faire frisquer par endroits. Puis le soir, si on fait un petit bivouac dans un camping, ça c'est...
Mais on prend ses pieds, mais on prend des bâtons aussi pour marcher ou pas?
Alors, les enfants, ils aiment bien, ça les amuse. Ouais. C'est un peu, ça peut devenir un peu rapidement un peu énervant.
Après, quand il faut porter les enfants et les
bâtons,
il y en a des pliables. Il y en a des pliables.
Et moi, j'ai vu des bâtons qui font gourde. Je vous promets, des bâtons.
On n'arrête pas le problème.
Vous buvez votre poignée de bâton.
Et ben ouais. Non mais franchement, tous les ans, il y a des innovations au niveau de la randonnée, c'est vraiment super.
Mais on va où?
Alors, il y a les grands classiques. Vous pouvez aller en haut du Puy-de-Dôme.
Ah, j'ai fait avec mes parents quand j'étais petite, c'est vrai.
Voilà.
Première randonnée finalement de ma vie, je ne savais pas.
Et ben voilà, c'était le chemin des muletiers, ma chère Mélanie, que vous aviez pris. Ça fait quand même 1465 mètres de haut quand on arrive au sommet.
Une sacrée belle vue en haut.
C'est beau. Alors le matin, c'est un peu dans le brouillard. Je l'ai fait. Il fait un peu frisqué. Donc là, la polaire, n'oubliez pas. Et puis vous montez, c'est vraiment magnifique. Mmh. Si vous avez un petit coup de mou, il y a le train, le panoramique des cimes, quand même, si vous avez les enfants.
On m'avait pas dit ça, qu'il y avait le train.
Si, quand même. Au cas où, il y a ça. Sinon, il y en a un autre qui est aussi rigolo, qui est un peu moins haut, c'est la dune du Pilat.
Ah, c'est sympa.
C'est la randonnée. Là, la promesse, c'est d'aller au sommet et puis de faire l'apéro.
Et de rouler dans le sable.
Et c'est bon pour la voûte plantaire.
Exactement.
115 mètres de haut.
Est-ce qu'il y a des tendances dans les randonnées avec enfants en ce moment?
Oui, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont tous donné le mot cette année. C'est la marmotte. Il y a des randonnées pour aller découvrir les marmottes un peu partout en France, même dans des endroits complètement insoupçonnés. J'en ai retenu une, c'est Pascal qui propose ça à Courchevel en Savoie. Il emmène les parents, les enfants depuis 6 ans, le matin, pour aller observer les marmottes dans l'habitat. Et on va enfin pouvoir répondre à la question: pourquoi les yeux des marmottes sont-ils sur les côtés? Vous avez déjà réfléchi à la marmotte?
C'est quoi la réponse?
Vous irez faire la petite promenade. Ça dure 3 heures et ça coûte 10 euros par personne.
Bon, c'est pas mal. Et si je veux une randonnée, mais vraiment très insolite, est-ce que vous avez ça en magasin?
Alors, on a tous vu les randonnées à Dodane, mais j'ai découvert dans l'Orne, on fait les balades à dos de vache.
Oh non,
c'est près de la roche. Oh, bah ça va, elles ont le cul épais quand même.
C'est vrai. Franchement, je préfère que ce soit la vache qui porte les enfants que moi. En plus, non, mais c'est vrai. Mais des vaches normandes alors?
Des vaches normandes, ouais. Alors, ça, je vous garantis des fous rires parce que l'équilibre est un peu moins garanti que sur l'âne, mais ça plaît beaucoup aux enfants, ça plaît beaucoup aux adultes. Et c'est près de la roche d'Ouêtre, un très très joli endroit en Normandie.
Mais je suis sûre, toutes ces idées de randonnée avec les animaux, ça a trop la cote. Vous en avez une autre peut-être, un peu originale, toujours tendance?
Quelque chose que j'ai testé, encore une fois, moi-même avec mes enfants, c'est chez Jean-Louis et Marielle Kuhn. Alors ça va beaucoup plaire à Julia, c'est chez Carpe Diem Émotion. On est dans les Vosges, et là, en fait, ils sont mushers dans leur vie. C'est quoi des mushers?
Ils ont des chiens husky.
Des
chiens traîneaux.
Ils ont des alaskans, très précisément. C'est pas des huskies, mais c'est des chiens traîneaux. L'hiver, ils sont sur la neige, mais quand il y a peu de neige, qu'est-ce qu'ils font?
Génial.
En fait, vous mettez une espèce de ils appellent ça un slip en harnais, donc un harnais que vous passez autour de vous, et là, vous accrochez votre chien et il vous tire. Donc le chien traîneau, il vous emmène avec une grande laisse, on va dire, et il vous emmène en balade. Ouh. Donc c'est une marche un peu sportive.
C'est du cani-rando.
C'est de la cani-rando.
Ça, c'est
pour Julia, exactement.
Ça, elle va
adorer. Et c'est génial.
Et avec les petits, c'est pas dangereux, ça?
Si le petit est petit, on le met dans la carigoulette, comme il appelle Jean-Louis. Et c'est, donc là, le chien tire la petite carriole.
C'est super sportif en
même temps. C'est sympa. Ça permet d'aller un peu dehors et de se promener, de voir de l'air.
Mais en fait, le secret, l'espace. C'est que j'imagine qu'il faut des objectifs, non, pour les enfants. Il faut faire comme une chasse au trésor.
C'est ça,
part.
C'est ça. Ce qui est sympa, c'est donner des points, en quelque sorte, et donner des objectifs. Donc, à la fin, tu vas gagner ça, tu vas pouvoir les voir en haut de la dune, tu vas pouvoir redescendre de la dune. Ou alors, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, il y a Terraventura. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Vous gagnez des points à chaque énigme résolue.
Ouh, ils vont adorer ça.
Et des poises, ils appellent ça des poises. Et vous avez des points, et à la fin, vous pouvez dire qu'il a gagné, il est content.
Ça va leur plaire. Merci beaucoup, Gavin Clémenté Ruiz. On rappelle qu'on peut retrouver toutes ces bonnes idées de randonnée avec enfants sur le site routard.com.
Exactement.
Et que vous êtes évidemment tous les samedis aux côtés de William Lémergie dans Samedi en France de 15h à 16h. Voilà, cette émission est terminée. Bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous serons bien entendu de retour lundi dès 11h. Julia, on va s'intéresser à quoi?
Eh bien, on va tenter de s'alléger lundi. Un sujet qui préoccupe pas mal de gens chaque année à l'approche de l'été. Comment perdre les kilos superflus? Mais on va vous proposer un angle d'attaque un peu différent de d'habitude. Comment perdre du poids quand on en a besoin pour sa santé, surtout en gérant mieux notamment nos émotions? On va vous expliquer cette méthode très intéressante.